Grand Angle.
Bienvenue à l'écoute de Radio Orient, le Grand Angle hebdo et l'actualité de ces 7 derniers jours que nous passerons en revue avec vous, Nadia Bencher. À la une cette semaine, régulation du numérique, Bruxelles durcit le ton et Washington s'agace. Que disent les règles européennes en la matière? Nous entendrons à ce sujet Farah Kalek, docteur en intelligence artificielle. Grand froid, Paris renforce l'hébergement d'urgence et l'aide alimentaire en raison de la chute des températures. Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris, en charge des solidarités, détaille les principaux piliers du plan Grand froid. ONG à Gaza, l'Union européenne met en garde Israël sur l'aide humanitaire. L'État hébreu entend interdire les organisations qui ne transmettent pas la liste de leurs employés palestiniens. Un tour de vis pour pousser les Gazaouis à quitter le territoire, nous dira Nizar Badran, président de Palmed. Enfin, en France, sans papier, les régularisations en chute libre en raison de la circulaire Retailleau, mise en œuvre en janvier 2025. Politique que dénonce Pierre Henry, président de l'association France Fraternité. L'Union européenne durcit sa régulation du numérique et le sujet fait monter la tension avec Washington. L'administration Trump dénonce une atteinte à la liberté d'expression et a imposé des interdictions de visa à 5 Européens engagés contre la désinformation, dont l'ancien commissaire Thierry Breton. En parallèle, Bruxelles a frappé fort, près de 3 milliards d'euros d'amende contre Google en septembre et 120 millions contre X en décembre. Mais que recouvrent exactement ces règles européennes et comment s'appliquent-elles concrètement? Les explications de Farah Kalek, docteur en intelligence artificielle.
Du coup, on parle tout simplement d'un ensemble de lois qui couvrent toute la chaîne du numérique. Donc aujourd'hui, on a le RGPD qui protège les données personnelles, le DSA qui régule les contenus et les risques sociétaux, on a le DMA aussi qui rééquilibre la concurrence. Et puis on a aussi l'AI Act qui lui encadre les usages de l'IA. Donc l'objectif c'est pas de freiner la tech, mais c'est d'imposer en fait des règles claires comme dans d'autres secteurs stratégiques.
Alors pourquoi cet arsenal irrite autant Washington selon vous ?
Parce qu'il remet en cause un modèle très libéral, je dirais, historiquement dominant aux États-Unis. Donc l'Union européenne impose des obligations contraignantes à des entreprises majoritairement américaines avec des sanctions réelles. Mais c'est aussi un enjeu de souveraineté normative. C'est que l'Europe impose ses règles à des acteurs globaux, tout simplement.
Alors, deux amendes sont citées comme très mal vécues aux États-Unis, 2,95 milliards d'euros contre Google en septembre et 120 millions contre X en décembre. Qu'est-ce que ces cas illustrent au-delà des montants ?
Il montre que les règles européennes ne sont plus théoriques. La Commission est capable d'enquêter, de prouver des manquements, mais aussi de sanctionner des géants. Donc je dirais que c'est un signal fort. La taille ou la puissance économique ne place plus au-dessus du droit.
Le DSA que vous avez cité tout à l'heure vise notamment la désinformation et la haine en ligne. Concrètement, qu'impose-t-il aux plateformes ?
Alors, le DSA impose une obligation de moyens renforcés. Donc, les plateformes doivent modérer plus efficacement, expliquer leurs décisions, signaler les risques systémiques et puis coopérer avec les autorités. Donc, ce n'est pas une censure, mais plus une responsabilisation.
C'était Farah Kalek, docteur en intelligence artificielle. À Paris, après plusieurs jours de température en baisse, le plan Grand froid a été activé dans la capitale et en Île-de-France. Décidé par le préfet de Paris, il vient renforcer le plan hiver déployé chaque année par la ville. Davantage de places d'hébergement d'urgence et des moyens supplémentaires pour l'aide alimentaire. On écoute Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, qui détaille les principaux piliers de ce plan.
C'est vrai que le plan hiver de la ville de Paris se constitue de, on va dire, deux piliers. Un pilier, c'est la question de l'hébergement d'urgence avec la création des 130 places sur toute la période hivernale et aussi une augmentation des moyens alloués à l'aide alimentaire. La ville distribue pendant l'hiver 60 000 repas supplémentaires par jour par l'intermédiaire à la fois des petits déjeuners, des boîtes de lunchbox, on appelle ça, c'est-à-dire des boîtes de déjeuner, et puis aussi de sites supplémentaires ouverts pour dîner le soir assis au chaud. Vraiment, notre objectif, c'est d'essayer de permettre aux personnes très précaires de pouvoir trouver, dans le moment du repas, un moment aussi de repos, de répit, un moment de pause. Et donc, on cherche surtout des lieux pour pouvoir faire des distributions alimentaires où les personnes sont assises. Et donc, du coup, on a ouvert le restaurant administratif de l'hôtel de ville le soir pour 250 repas tous les soirs. On a aussi ouvert un autre site, un restaurant municipal qui d'habitude n'est ouvert que le midi. On l'a ouvert le soir pour faire 150 repas supplémentaires. Et puis on a les distributions de petits déjeuners solidaires à la fois à l'Académie du Climat, mais aussi dans les lieux culturels du centre de Paris, qui distribuent aussi les déjeuners du midi. Et donc du coup, on a plus de 60 000 repas supplémentaires sur la période hivernale par rapport au reste de l'année.
Et les associations que vous soutenez cherchent toujours des bénévoles, notamment pendant les fêtes, on sait que beaucoup de bénévoles sont absents.
Absolument, les bénévoles sont très précieux dans cette période. Donc on est toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit par l'intermédiaire de la Fabrique de la Solidarité qui recense l'ensemble des besoins des associations et permet ensuite de redispatcher les bénévoles disponibles et motivés, ou que ce soit par l'intermédiaire des associations elles-mêmes, alors les Restos du Cœur les plus connus, mais on peut aussi citer la Fondation Armée du Salut, on peut aussi citer la Chorba, on peut aussi citer le diocèse qui est très présent aussi dans cette période-là. Et évidemment, si vos auditeurs certains sont motivés dans cette période pour faire du bénévolat, la question des distributions alimentaires est évidemment assez cruciale et assez centrale dans l'engagement des Parisiens solidaires.
Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, au micro de Loïc Barrière. Parmi les sujets qui ont marqué cette fin d'année en France, la régularisation des sans-papiers, elles sont en nette baisse, moins 42% sur les 9 premiers mois de 2025. En cause, la circulaire Retailleau publiée fin janvier 2025 qui appelle les préfets à durcir l'examen des demandes, notamment au titre du travail ou de la vie familiale. Une orientation vivement critiquée par les associations. Pierre-Henri, président de France Fraternité, dénonce une politique aux conséquences humaines lourdes. On l'écoute.
Oh, cette circulaire, elle est terrible. Elle est terrible parce que elle interdit quasiment à des gens qui s'inscrivent dans une logique d'intégration par le travail d'accéder à un titre de séjour. La circulaire Retailleau, c'est une machine à produire de l'irrégularité, à maintenir des gens dans la précarité. Alors on me dira, mais quand on arrive sur un territoire, on doit avoir les papiers en règle et ne pas s'y maintenir si ce n'est pas le cas. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme cela. Et dès lors que vous avez à la fois des besoins dans un certain nombre de secteurs d'économie, que vous avez des patrons qui veulent absolument embaucher des personnes qui viennent de pays non européens et qui sont en situation irrégulière, eh bien, la circulaire Retailleau met tellement de barrières que ce n'est pas possible. Mais la question, c'est mais pourquoi faire cette circulaire, pour satisfaire qui? Est-ce que les personnes qui soient refusées un titre de séjour alors qu'elles travaillent, alors qu'elles ont des liens familiaux très forts en France, est-ce qu'on les renvoie? Ben non, nous sommes les champions d'Europe de la délivrance des ordonnances à quitter le territoire français. Les champions d'Europe, hein, plus de 2,5 fois de délivrance d'OQTF que, par exemple, en Allemagne. Mais pour quel résultat? Cette politique-là, elle est absurde. Elle coûte cher socialement, elle coûte cher politiquement. Moi, je suis de ceux qui considèrent que sur la base de critères objectifs comme la possibilité de travailler, le fait de parler la langue, d'être là sur le territoire depuis un certain nombre d'années, d'avoir des enfants qui sont nés sur le sol français, je considère qu'à partir de ce moment-là, il faut regarder la situation de chaque personne et employer l'outil régularisation comme un moyen de régulation.
Pierre-Henri, président de France Fraternité, il répondait à Loïc Barrière. La situation humanitaire à Gaza reste au cœur des inquiétudes, ce qui a poussé l'Union européenne à mettre en garde Israël. Avec les nouvelles règles d'enregistrement, la suspension d'ONG pourrait freiner l'acheminement d'une aide vitale. Parmi les exigences en question de l'État hébreu, la transmission par les ONG de la liste de leurs employés palestiniens. À défaut, certaines organisations pourraient perdre l'autorisation d'opérer dès 2026. Pour Nizar Badran, président de Palmed, ces ONG assurent l'essentiel du soutien à Gaza, où les besoins restent immenses. On l'écoute.
Ces associations, ces organisations internationales, au fait, ils font l'essentiel de l'activité de soutien humanitaire. Il y a à peu près un milliard de dollars dépensés par ces organismes tous les ans, donc c'est une somme très importante. Quand on cite celles qui étaient empêchées d'exercer à partir de demain, c'est quand même les plus grandes. Hein. C'est MSF, Médecins du Monde, CARE, Oxfam, Terre des Hommes, Lutte contre la faim, etc. etc. Les 1,37. Donc sur le 80 à peu près à ce organisme, le plus important sont empêchés parce que les Israéliens, ils ont demandé un re-enregistrement au mois de mars dernier. Et le re-enregistrement, ça, ils mettent de conditions, si vous voulez, contraires aux lois internationales, aux règlements de droit international humanitaire. Donc ces organisations nationales n'ont pas accepté, bien sûr, d'obéir. Il y a une petite fraction qui a accepté quand même, mais pas l'essentiel. Alors, ces organismes internationaux, les organisations internationales non gouvernementales, ils couvraient déjà, une activité importante sur le plan de la santé, ce que nous concerne en premier chef, mais aussi sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan des abris, approvisionnement des abris, surtout avec le temps qu'il fait actuellement, sur l'eau, l'assainissement, l'hygiène, sur la nutrition, sur les actions anti-mines et déblayement des décombres, mais aussi sur l'éducation. Donc vous avez déjà pas mal de choses où ces organisations internationales sont impliquées de façon très importante. On peut rentrer un peu dans les détails si vous voulez. Hein.
On y reviendra, bien sûr. C'est vrai que vous l'avez dit, il y a une nouvelle procédure d'enregistrement. Israël demande aux ONG de transmettre la liste de leurs employés. En quoi cette exigence change le travail de ces organisations au quotidien ?
On ne peut pas dire, nous, exactement quelles sont les conditions exigées par les Israéliens, mais les Israéliens, ils ont politisé leur enregistrement. Et ça devient arbitraire. Et le but principal d'avoir les noms, c'est d'empêcher justement ces personnes de travailler. Et c'est d'accuser, de certaine façon, les organisations. Ça, c'est une accusation souterraine, hein, de dire que ces organismes internationaux, de certaine façon, couvrent des activités illégales aux yeux des
Israéliens.
Voilà. Le droit international n'oblige pas de fournir les noms des personnes, hein, comme le droit des Israéliens. Il faut bien comprendre que le but principal, à mon avis maintenant, le but principal de ces mesures, ce n'est pas vraiment les organisations internationales. Ce n'est pas les ONG. C'est plutôt la population civile palestinienne. Ce qu'on cherche, c'est encore serrer le vis, compliquer la vie des habitants de la bande de Gaza, et surtout avec ce temps, avec l'hiver, de telle façon de les pousser au départ.
C'était Nizar Badran, président de Palmed. C'est ainsi que s'achève le grand angle hebdo de cette semaine que vous pouvez réécouter sur notre site et également sur Spotify. Merci de nous suivre et excellente suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.